Le grenier à son, la mémoire sonore en Royan-Vercors.
Les 12 et 13 avril 2025 se sont tenues les 4e rencontres patrimoniales à l'initiative de l'association Patrimoine Isère Aval. Tour d'horizon des différents stands associatifs patrimoniaux du Sud Grésivaudan et du Royan-Vercors dans le forum de Saint-Marcellin avec la thématique envisagée cette année, la gastronomie. Nous retrouvons pour une présentation générale Jean Briselet, président de l'association Patrimoine Isère Aval. Eh bien, bonjour Jean Briselet.
Bonjour Radio Royan et merci d'être présent dans notre salon et des 4e rencontres des patrimoines. Ça nous fait grand plaisir.
Voilà, belle mosaïque patrimoniale au Forum de Saint-Marcellin. Nous sommes dimanche à la mi-journée, donc le salon qui a déjà fait une bonne journée hier. On peut déjà parler de la fréquentation de ce samedi qui était satisfaisante.
On a eu une belle fréquentation ce samedi. D'abord, à tout seigneur, tout honneur, si on peut le dire comme ça, les élus se sont mobilisés parce que contrairement à il y a un an et demi, la dernière édition, où on avait eu, oui, les élus principaux, mais c'était limite. Là, on a eu beaucoup de représentants des communes, de notre communauté de communes, voire et même davantage, puisqu'il y avait aussi des représentants du Vercors et du côté du Chambaran.
Voilà, par le biais donc de l'association dont vous êtes le président, Patrimoine Isère Aval, qui a donné peut-être une directive bien concrète de ce salon qui a permis de coordonner de manière plus optimum que les années précédentes.
On s'est surtout attaché à réfléchir sur l'idée qui pourrait faire venir les gens. Parce que les éditions antérieures, c'était 25-30 associations qui avaient chacune leur stand. À l'usage, il apparaît que ce n'est pas forcément mobilisateur pour faire venir le public sur un thème général de rencontre du patrimoine. Donc on a cherché une idée et on est parti sur le patrimoine gastronomique, dont la région est riche. Ce qui fait que hier, on avait les deux confréries de la Raviole et du Saint-Marcellin, qui ont non seulement expliqué ce qu'elles faisaient, mais qui ont aussi entraîné des dégustations qui ont été bien appréciées. Ce matin encore, je discutais, et il y en avait qui trouvaient qu'il n'y avait pas assez de Saint-Marcellin à partager hier. Bon, on le dira pour dans 2 ans s'ils reviennent.
Succès pour cette gastronomie qui a fait un point commun entre tous les stands.
Ça a un petit peu fédéré la présence de chacun. Alors, toutes les associations ne se sont pas présentées elles-mêmes sur le thème de la gastronomie parce que certaines n'ont aucune pratique de ce sujet-là. Mais ça n'empêche que ça permet de se retrouver au sujet d'un thème fédérateur qui est développé au travers du travail sur les fours à pain, un travail pédagogique que l'on lance à l'occasion de ces rencontres des patrimoines et qui se développera dans les écoles de notre région à partir de septembre 2025.
Sujets qui vont aussi intéresser les jeunes, ça fait un pont entre les générations.
Ça fait un pont entre les générations et puis c'est bien pour que les générations sont des fois, les jeunes générations sont des fois curieuses et demandeuses de savoir l'historique, l'histoire de certains sujets. Comme je l'ai encore dit hier lors de l'inauguration, si on ne connaît pas ses racines, on ne peut pas pousser vers l'avenir. C'est le propre d'un arbre, il faut qu'il ait de bonnes racines. Donc, aussi bien que ce soit des thèmes sociaux, de développement, etc., ou des thèmes de la construction, du bâtiment, ou des traditions, il faut en connaître suffisamment, sans faire de passéisme, sans faire de nostalgie, mais le comprendre pour savoir d'où ça vient et pourquoi on fait comme ça maintenant.
Et où est-ce qu'on veut aller?
Et où est-ce qu'on veut aller?
Et à cet égard, le Royan-Vercors Sud Grésivaudan sont concernés par de multiples associations. Le forum est bien investi.
Oui, ben, je crois que le tour a été fait de toutes les associations.
Non, on l'a fait ensemble, oui. D'accord, on va peut-être pas refaire tout le tour, mais c'est une bonne vingtaine.
Quand même. Non, il y a une vingtaine d'associations à peu près, d'associations ou d'invités, parce que les associations qui sont présentes ici, je crois qu'elles sont 17. Mais il y a aussi des invités comme les Maudugène, oui, qui viennent de Viriville, comme la Vipar qui vient de Grenoble et qui présente des maquettes de séchoir à noix et une maquette de four à pain qui rejoint le thème pédagogique sur lequel on est parti. Et puis j'ai parlé des confréries. Alors aujourd'hui, ce dimanche là, maintenant, on a la confrérie de la noix qui va nous faire des démonstrations. Voilà, déjà commencé ce matin, de cassage de noix. Mmh. Et puis quand ils auront cassé assez de noix, on fera une petite mondée, je pense, cet après-midi. Voilà, parce que le cassage de noix, c'est une chose, mais après, il faut que les gens autour d'une table, ils mettent les coquilles d'un côté et les cerneaux de l'autre.
Ça fait une démonstration en temps réel de la vie des nuciculteurs.
Qui permet aussi de goûter des noix, de grignoter des noix en même temps. Voilà.
Et c'est également un lieu ressource par les conférences qui sont des points comme ça abordés.
Oui, ben on a une douzaine de conférences au total. Cet après-midi, il nous en reste encore 3 ou 4, je ne sais pas exactement. À 14h, le confort thermique dans le bâtiment ancien, dans le bâti ancien. À 15h, l'histoire de la noix de Grenoble, qui rappellera comment a été acquis l'appellation d'origine, l'AOP. À 15h30, toujours ce thème intéressant et peu connu encore de Willy Münzenberg. Et la dernière conférence, elle est intéressante pour toutes nos associations ici parce qu'elle porte sur l'archivage des documents. Et l'association des Amis du Vieux-Saint-André, qui est conduite par le couple Capéran, bien connu, a mis au point un système de classement des documents selon la thématique, selon leur âge, selon leur sujet, etc., de façon qu'on les retrouve facilement selon leur date d'écriture et leur date d'archivage, de façon qu'on les retrouve facilement. Et c'est ceci que Marie-Noëlle Capéran nous présentera cet après-midi en dernière conférence à 16h.
Voilà, qui fera peut-être un sens commun d'archivage par la suite.
C'est une conférence qu'on lui a demandé parce que c'est intéressant, et des associations parmi les nôtres dont Groupe Rempart, dont je fais partie à Saint-Marcelin, on est assez mauvais en matière d'archivage. On accumule des choses, mais après, les retrouver où, les retrouver comment, on ne sait pas trop. Ce qui peut être répertorié sur ordinateur, ça permet déjà par les titres de les retrouver, mais s'il faut les retrouver dans l'état de papier, c'est une autre histoire.
Et qui puisse aussi se raccorder aux archives départementales.
Exactement, ça. Exactement.
Avoir les techniques. Ben merci beaucoup, Jean Briselet, dont je rappelle, vous êtes président de l'association Patrimoine Isère Aval, qui coordonne ce 4e salon avec ses nombreuses associations. Sud-Grésivaudan, Royan-Vercors, c'est un large territoire. Hein.
Sud-Grésivaudan, Royan-Vercors et Chambard maintenant, puisqu'on touche à Roibon, Viriville, etc. Donc on étend un petit peu. Voilà. Mais on reste quand même sur les contreforts de la vallée sud de l'Isère. Voilà. C'est un petit peu la définition qu'on essaye de se donner.
Qui est un grand bassin de vie quand même.
Oui, assez large. Mais on essaye d'être respectueux aussi des territoires des autres. Il y a une fédération sur l'Isère, la FAPI, tout ça. Donc on ne veut pas du tout empiéter sur leurs privilèges et leurs rayons d'action.
Alors là, donc, au niveau des rencontres du patrimoine, en ce 13 avril 2025, c'est aussi la présence d'une association patrimoniale bien identifiée à Châtes, Amédéus, tenue, pour ce qui concerne le stand aujourd'hui, par Micheline Elisabeth, c'est bien cela ?
Et Daniel.
Et Daniel. Alors, on ne va pas retracer peut-être tout l'historique de l'association, mais ceci dit, tout ce qui vous donne cœur à la faire découvrir, et notamment le patrimoine de Châtes qui peut être industriel ou plus bâti, social. Vous m'avez montré un certain nombre de choses qui ressortent et que l'on ne soupçonnerait pas à Châtes.
Alors, je vais d'abord vous parler pourquoi le nom Amédéus. Oui. Cela vient de Saint Amédée, qui est un personnage très célèbre, qui a été prieur de Hautecombe, qui a été prince-évêque de Lausanne et qui serait né au château qui domine le village depuis plus de 1000 ans, puisqu'il serait né en 1110 dans ce château. Donc nous avons, ce château est privé, habité en partie, mais nous avons eu à cœur de le remettre en valeur On l'appelle le château des pauvres à cause de la révolution qui a été, où il a été vendu comme biens nationaux et que sept personnes se sont associées, mais il appartenait à la puissante famille des Clermont, originaire de Chirins. Donc ça, on a à mettre à cœur ça. L'an dernier, on a mis en valeur l'usine de tissage,
en 2023,
l'usine de tissage de toiles de parapluies qui est exportée dans le monde entier, en particulier en Angleterre, hein, à l'époque des parapluies. Et puis, nous continuons. Nous voulons aussi rappeler que la salle Colneau vient du nom Alexandre Colneau, qui était le mécanicien volant de Mermoz. Et Mermoz, on a des pages très émouvantes. Il y avait un lien très fort, puisque c'est grâce à ce mécanicien, parce que à l'aéropostale, c'est comme ça que ça se passait, le mécanicien réparait au fur et à mesure. Et quand il a eu son accident dans la cordillère des Andes, sans Alexandre Colneau, mais ils y restaient tous les deux. Voilà.
C'était le début du 20e, globalement.
1925, on a. Oui. C'est toute l'histoire de l'aéropostale. Nous avons Maryse Bazoli, l'historienne de notre village, qui, à l'époque, avait fait toute une exposition en rapport avec Toulouse aussi, avec, pour l'aéropostale. Et nous, en ce moment, on se dit, mais pourquoi pas la faire, la présenter à nouveau. En particulier, nous avons la salle Colneau. Tous les gens qui sont passés ne savaient pas qui était Colneau. Vous voyez. Et donc, le château, Colneau, le patrimoine industriel. Et maintenant, nous avons la chapelle Sainte-Philomène. On a offert la maquette à la mairie. On a des documents. Mais nous n'avons pas eu le temps matériel encore de le travailler. Donc il y a des choses intéressantes à Châtes.
Oui.
Et Châtes viendrait du mot Châtel, Castellum, le château. Rien à voir avec l'animal. Très longtemps dans les textes, on entend Chaste.
Oui.
Château, Castel.
Chastre aussi, j'ai entendu.
Oui, oui.
Pourquoi ce château dit des pauvres?
Alors, à la Révolution française, on a chassé les nobles. Et ce château était mis en vente. Et on a le nom des sept personnes qui ont acheté ce château. Donc, vu qu'ils se sont mis à sept, signifiait qu'ils n'étaient pas très riches, et bien c'est resté dans la mémoire collective comme un château des pauvres. Et moi, ça me met... Je suis pas contente. Pour moi, je dis château dit des pauvres, parce que c'est le château qui a appartenu jusqu'en 1672 à la famille de Clermont. Qui existe encore avec les Clermont-Tonnerre aujourd'hui. Pour moi, c'est le château des Clermont.
Merci beaucoup, Micheline, pour vous rejoindre l'association Amédéus qui cherche un petit peu des forces vives. Vous recherchez un petit peu
bien
les forces
sûr,
vives
pour. On en aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, on fait toujours un appel, on demande, mais c'est très difficile parce que les jeunes n'ont pas le temps. Je ne sais pas. On a eu à Châtes tout un collectif d'anciens et leurs enfants à une époque où il y avait une vie vraiment du village. Mais maintenant, les gens sont peut-être indifférents. On ne sait pas. Mais on fait un appel aux forces vives pour nous aider à continuer.
Merci. Au stand des Amis des Antonins, de l'association des Amis des Antonins, représenté par Christian Morel. Bonjour, vous êtes le président d'ailleurs. Bonjour, Christian.
Voilà, je suis le président de l'association française des Amis des Antonins, qui est une association de niveau national et qui est unique en son genre, puisque il n'y a pas d'autre association qui traite de l'histoire de l'ordre antonin.
Voilà, l'ordre de Saint-Antoine qui finalement a maillé toute la France. Et Saint-Antoine représente une sorte de point d'achoppement.
Alors je veux d'abord vous dire que ça n'a pas maillé totalement que la France, ça n'a maillé toute l'Europe. Hein. Donc, ça représente quelque chose de très important pour nous, parce que Saint-Antoine était un ermite, hein, né en Égypte, hein, et qui a été, dont les reliques ont été ramenées à Saint-Antoine l'abbaye, qui était autrefois Saint-Antoine en Viennois. Voilà. Alors, c'est important, bien sûr, également, parce que c'est un ordre qui est méconnu, hein, qui s'est construit dans des conditions un peu particulières, mais qui est dissous en 1777, suite à la disparition, essentiellement, de la maladie du mal des ardents, hein, qui était l'objet des soins de nos Antonins, qui étaient des hospitaliers, ne pas l'oublier.
Alors, toute cette histoire, cette riche histoire, c'est ce que vous consignez aussi au fur et à mesure du temps, par diverses éditions, expositions. Alors là, aujourd'hui, dans ce stand, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant ?
Alors, ce que nous souhaitons mettre en avant, plus particulièrement, c'est nos recherches des lieux antonins qui ont existé, hein, d'une part en France, et d'autre part en Espagne, en Italie, en Allemagne. Et nous en sommes maintenant à 25 ou 26 lieux antonins avec lesquels nous avons créé des liens, qui sont nos adhérents, et nous sommes les adhérents des associations locales qui ont été créées pour faire connaître ce patrimoine. Alors tout ceci s'est concrétisé par un congrès que nous avons organisé l'année dernière, hein, un congrès qui a permis de réunir tous les adhérents, ou du moins une grande partie des adhérents de notre association, qui compte 185 adhérents, y compris en Italie, y compris en Espagne, y compris en Allemagne, et on en a même un en Angleterre, où il y avait des commanderies également. Alors ce congrès a permis à ces lieux antonins qui existaient de permettre à ces gens-là de venir présenter les lieux antonins, hein, et puis également de partager nos connaissances, pour eux de visiter Saint-Antoine-l'Abbaye, qui était la maison mère de l'ordre, hein, ne pas l'oublier.
Et puis aussi des temps forts, puis l'association Les Amis des Antonins Saint-Antoine ne se lasse pas de toujours faire découvrir des pans parfois méconnus de cet ordre. Il y a des projets cette année?
Ah ben, les projets, il y en a toujours, mais bon, nous sommes déjà ici, hein, à cette rencontre des patrimoines. Nous participons au médiéval de Saint-Antoine. Nous organisons une visite découverte à Issenheim pour retrouver le retable des Antonins d'Issenheim qui se trouve au musée de Colmar. Nous aurons également les journées du patrimoine. Et puis, de manière perpétuelle, nous avons l'édition de notre revue qui permet de faire connaître un petit peu toutes nos découvertes sur l'ordre antonin.
Eh bien, merci beaucoup, Christian Morel. Et puis, bonne continuation avec les Amis des Antonins. Et puis, cette revue semestrielle, hein, qui ne s'arrête
voilà,
pas.
Voilà, qui continue à se faire. Et nous ne manquons pas d'articles parce que nous avons maintenant, avec 185 adhérents, qui, de leur côté, recherchent également et nous présentent bien des découvertes.
Merci beaucoup. Tour d'horizon des stands de ces quatrièmes rencontres des patrimoines au Forum de Saint-Marcellin les 12 et 13 avril 2025 à l'initiative de l'association Patrimoine Isère Aval. Alors, au stand des Amis du Vieux Saint-André, bonjour Marie-Noëlle Capéan.
Bonjour.
Beaucoup de documents d'archives dans ce stand, des ouvrages, des livres, et puis aussi tout ce qui maintenant vous confère une certaine représentativité, c'est le référencement des archives depuis des dizaines d'années.
Oui. Depuis 1997, un petit groupe de passionnés du village de Saint-André et de recherche en histoire surtout, ont commencé à enregistrer cette mémoire histoire. Alors, cette mémoire histoire, dès le début, on a eu l'idée de la partager en événements, en lieux, en famille et en tradition. C'est-à-dire que dès le début, nos documents, on les a mis avec la référence E pour événement, L pour lieu, F pour famille et T pour tradition. Et on a ajouté l'année de fabrication, c'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui était fabriqué en 97 s'appelait E97 ou T97 ou L97 ou F97. Et à la suite de ces trois chiffres, ces trois lettres, lettres et chiffres, on a ajouté le numéro d'enregistrement.
D'accord. Voilà. Alors, voyons par exemple celle-ci, là, on voit une photo de classe. E02041.
Alors, c'est E pour un événement. Toutes les écoles, toutes les photos d'école, on les a mis en événement. L'année 2002 est représentée avec 02. Et le 041 indique le 41e document que l'on a enregistré en 2002. Tout est sur ordinateur, bien sûr.
tous est sur un fichier TXT. Mmh. Et on peut, avec un nom ou de famille ou nom d'un thème, retrouver sur ce fichier le document dont on a envie. Par exemple, si on cherche pour le mot église dans ce fichier texte TXT, on va retrouver en faisant suivant, chaque fois que le mot église a été mis sur ce sommaire. Et tout est aux archives actuellement.
C'est-à-dire qu'en saisissant un mot un peu clé, on peut retrouver toutes les fiches qui sont associées au mot.
Exemple, cette fois, c'est un souvenir du lundi de Pâques en 1916 au Blanchon, dans une famille. Et là, c'est un document qui est répertorié donc en F, famille. On l'a fait, ce document, en 2000, c'est-à-dire du coup on a 00. Mis 00, et c'est le 308e document de l'année 2000.
D'accord. Alors tout est référencé comme ça aux archives départementales ?
Oui. On a déposé ça il y a 2 ans déjà maintenant. Ah oui. On a déposé de même en mairie. C'est-à-dire qu'on espérait qu'en mairie, la secrétaire pourrait facilement, comme ils ont tous nos documents, avec le code et le thème de recherche que la personne souhaite, trouver facilement le document et la fiche.
D'accord.
Intéressante.
Des lettres qui donnent une représentation de l'événement. Donc il y a le E événement, F famille, il y a d'autres lettres comme ça.
L comme lieu, les lieux. Et, par exemple, on a commencé nos recherches avec les cartes postales, donc L. Et les familles, c'était les mariages, les conscrits, et tradition, c'est par exemple cette année, c'est le pain, les fours à pain, tradition, c'est le jardinage.
Ouais. Hein.
On a la chance d'avoir à Saint-André un jardinier formidable et on a appelé toute sa collection les merveilles du jardin de Claude. Et donc c'était été 2011. 148e document. Voilà.
Et ça donne aussi des idées à d'autres associations qui vous consultent pour ça.
Ben, en tous les cas, chaque fois que l'on explique ce mode de référence, ça intéresse. Et je pense que l'erreur aurait été de faire, par exemple, en thème. Nous étions, pour nos expositions, on mettait évidemment en thème parce qu'il intéresse.
Oui. Hein,
mais après, c'était le foutoir, sorte.
D'accord.
Voilà.
Et donc, ça raccorde bien avec les archives départementales, votre référencement ?
Ah oui, tout à fait, puisque ils ont un sommaire. Mmh. Hein, et avec le sommaire qui est sur l'ordinateur, évidemment, ils peuvent répondre à la demande de n'importe qui.
D'accord.
Voilà. Et c'est surtout intéressant pour les familles, les généalogies. Oui. D'ailleurs, il y a beaucoup de documents que l'on a fait et que l'on a obtenu de renseignements parce qu'on est allé, on a fait de nombreuses recherches aux archives, et comme on se retrouvait avec un groupe d'amis qui faisaient le même genre de recherche pour d'autres patrimoines, souvent il y avait, on se donnait le mot en quelque sorte, et ceux qui trouvaient sur notre village un document, ils nous le faisaient passer.
Mmh.
Et beaucoup de documents ont été trouvés comme ceci.
D'accord.
Par exemple, les recherches sur l'école. Les recherches sur l'école et l'histoire de l'école que l'on a depuis 1580 à Saint-André, avec un précepteur qui était en 1580 d'une famille qui a été importante à Saint-André, eh bien, on retrouve tout, et ça a été fait beaucoup avec des copains d'archives. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Marie-Noël.
Merci à vous. Allez, au revoir.
Aux rencontres patrimoniales à Saint-Marcellin, c'est aussi l'occasion d'apprendre à parler patois. C'est encore possible. Nous sommes au stand des patoisans. Bonjour, je vous laisse vous présenter.
Alors, je m'appelle Christian Pevet, donc je suis le président de l'association Quand le patois revit au pays de la Franquetat. La Franquetat, c'est une variété de noix que tout le monde connaît par ici, c'est la franquette.
Et donc, le patois, c'est quelque chose qui n'est pas encore disparu. Vous le perpétuez.
en tâche moyen, on va dire. Et on se réunit entre passionnés, on est une vingtaine sur le secteur, et on se réunit, j'allais dire, très régulièrement, tous les mardis. Alors le mardi, on dit le dimard en patois. Ouais. Et on essaye, effectivement, déjà entre nous, de le parler, de le promouvoir également à travers des scénettes, voire même des petites pièces de théâtre ou des interventions dans diverses structures, de manière à ce que, effectivement, cette langue ne se perde pas complètement.
Alors donc, il s'agit du patois qui concerne Vinay-Saint-Marcellin, ou quel périmètre cela concerne ?
Oui, on appelle ça le Sud-Grésivaudan. On va dire que c'est un secteur qui va à peu près du Royan au Chambaran jusqu'à Grenoble. Mmh. Et un peu le Vercors aussi.
Mmh. Et il y a des racines communes entre ces différentes...
Oui,
après des variantes, c'est ça ?
Voilà, la racine commune, c'est le franco-provençal, oui, qu'on appelle aussi arpitan par opposition à l'occitan ou au provençal tout court. Et puis, bien sûr, des variantes qui peuvent aller d'un village à l'autre, d'une famille à l'autre, oui, d'un locuteur à l'autre, éventuellement. C'est ce qui fait le charme aussi.
Oui, toute une richesse.
Bien sûr.
Donc, il est possible d'apprendre le patois. Est-ce que ça semble compliqué au premier abord ? Est-ce que ça l'est vraiment ?
Non, ça l'est pas tant que ça. À titre d'exemple, la leçon numéro 1, c'est les jours de la semaine.
Ouais.
Et ça ressemble étrangement au verlan. Lundi, c'est dilun en patois. Mardi, dimard, il faut bien mettre l'accent sur l'accent grave sur le A. Mercredi, dimècre, le jour de Mercure. Jeudi, dijo, le jour de Jupiter. Vendredi, divendre. Samedi, dicendre. Et il n'y a que la dimanche qui reste dimanche au féminin.
Ah, oui. Ça a une signification particulière, le dimanche, dans le zoo.
Je pense que l'origine, oui, elle est aussi un peu religieuse. C'est le jour de repos après avoir beaucoup travaillé les autres jours de la semaine. Hein.
Alors, durant ces séances, vous vous retrouvez, il y a quelqu'un qui est référent ou c'est un peu mutuel ?
Alors, les références, ce sont des personnes qui sont assez âgées, autour de 90 ans, qui ont entendu parler ou parler eux-mêmes assez couramment le patois dans leurs activités quotidiennes, dans le milieu rural essentiellement. Et puis, on essaye, grâce à cette transmission orale, de l'apprendre. On essaye de l'écrire un peu pour que la transmission soit plus facile. Et c'est comme ça qu'on l'apprend, oui, effectivement, sans que ça soit vraiment des cours
formels,
structurés, ouais. Plus par passion que par la structure. Mais.
Il y a un peu de différents âges qui s'intéressent au patois.
Oui, il y a un éventail de 7 à 77 ans, voire même 97 ans, pourquoi pas. Bon, on a un peu plus de mal à intégrer des jeunes, déjà par leurs activités quotidiennes. Ils ne sont pas à la retraite. Mais on en a quelques-uns qui viennent assez régulièrement et qui participent.
Alors le but dans ces séances, c'est de parler patois, de choses et d'autres.
Pardon.
Oh là là, alors là, ça nous prend par les sentiments.
Merci.
Merci, c'est gentil. Parce que c'est le salon de la gastronomie, il ne faut pas l'oublier.
Ouais.
Derrière le patrimoine, il y a aussi la gastronomie.
Il y a de pain sur la planche.
Le pain, c'est pain ?
Le pain, c'est le pain. Ouais. Le pain, ouais. À faire cuire dans le four. Il faut bien pâter le pain pour qu'il soit bien cuit dans le four.
Alors, comment ça s'organise pour parler patois entre vous ? Vous mettez un thème sur la table ou...
Oui, ça peut être ça. Ça peut être à l'occasion d'une rencontre qu'on a faite et avec d'autres patoisans, voire même de régions un peu différentes, et qui permet d'échanger sur les différences qu'il peut y avoir. Les gens du Vercors, ils vont rouler les airs. Les gens des Chambarans vont avoir un accent différent. Ceux qui sont en limite de la Drôme vont être influencés également par l'Occitan. Et voilà, tout peut être sujet à discussion du moment qu'on parle patois. On a parfois même un peu du mal. Le français revient de manière plus naturelle. On se force un peu à parler patois ou à faire parler patois. Et finalement, le fait de se forcer un peu, ça permet de découvrir des choses.
Alors là, l'enregistrement est intéressant. Comme on fait actuellement de vous enregistrer, d'entendre les intonations, ça apporte beaucoup aussi.
Bien sûr, l'accent, la manière de le prononcer est très important. C'est pour ça que la transmission écrite est souvent insuffisante. Il faut qu'elle soit accompagnée de la transmission orale. Mais je sais qu'il y a aussi des universitaires qui se sont attachés à recueillir des témoignages oraux comme ça, de manière à accompagner la version écrite.
Et d'ailleurs, vous arrivez à retrouver un peu des documents, des vieux documents où il y a ce type...
Oui, on a eu des auteurs locaux. Bah, je ne sais pas, on peut citer Gaston Thuaillon qui a beaucoup écrit. Dans notre groupe, il y avait M. Armand Mante qui était aussi professeur d'université. On a des écrits de Ravana qui était un libraire de Grenoble. Qui était un vrai passionné aussi, et voire même des écrits plus anciens de Blanc-la-Goutte sur Grenoble-Malleroux, des choses comme ça. Ouais.
Est-ce que, selon vous, ça revient un peu, ça refait surface? On parle souvent de l'Occitan, d'ailleurs, des panneaux en Ardèche, dans d'autres départements. On voit la traduction en Occitan de la commune, c'est qu'il y a un regain d'intérêt pour ces langues qui sembleraient presque perdues.
Je pense que oui, et une réunion comme aujourd'hui, ça montre que les gens s'intéressent au patrimoine, puisque évidemment le patois fait partie du patrimoine parlé. Et je pense qu'effectivement, il y a ce besoin de retrouver nos racines, pour autant qu'on les ait jamais perdues non plus. Et que peut-être que ça pourrait être un projet pour notre région à nous aussi d'écrire le nom des villages en arpitan, en patois. Accompagné du nom français, bien entendu. Oui. D'autant plus qu'aujourd'hui, parfois, on les voit à l'envers.
Oui, et oui, oui. Et c'est aussi une limite, on est vraiment à la limite de l'Occitan, et c'est le franco-provençal, une sorte de mixage.
Oui, parce que la Drôme fait plutôt partie de l'Occitan, alors que le franco-provençal, c'est en gros les départements de l'Isère, l'Ain et les deux Savoies, voire même une partie du nord de l'Italie, puisque la vallée d'Aoste parle le même patois que nous, et même la Suisse romande. Et c'est vrai que la limite avec la Drôme étant proche, on subit l'influence de l'Occitan. Enfin, on en profite.
C'est associé à une itinérance, le franco-provençal?
Oui, je pense, oui. Une rencontre, un carrefour. La région Rhône-Alpes, enfin qui est Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui, a toujours été un carrefour de rencontres, puisque proche de l'Italie... Et les gens se sont toujours déplacés, même si les moyens d'accès étaient plus difficiles. Donc il y a forcément une sorte de brassage, mais qui a son origine locale.
Et vous, ça vous confère du plaisir à parler patois? Qu'est-ce que c'est, y a quelque chose d'émotionnel ou...
Eh bien, complètement, oui, puisque certaines expressions n'ont pas la même valeur en français. Quand on parle de choses locales comme le travail de la noix, l'élevage du cochon, enfin tout ce qui fait partie des traditions, c'est beaucoup mieux en patois qu'en français.
Ah, oui. C'est plus imagé.
Oui, c'est plus imagé. C'est plus près du terrain, c'est plus près de ce qui se faisait réellement dans les travaux des champs au quotidien, oui.
Et il y a du patois qui subsiste encore dans le français courant?
Oui, des expressions plus ou moins dauphinoises, patoisantes, ou carrément des mots en patois, oui, qui subsistent. À la campagne, quand on va traire la vache, on va mouze.
Ouais.
Et voilà, des expressions qui sont restées. Hein.
Ben merci beaucoup. En tout cas, où il y a des éditions de choses qui sont consignées.
Oui, on travaille. Nous, notre base de travail, c'est un livre, un recueil qui a été écrit par M. Louis Sauze, qui était un vrai passionné et qui a tenu à transmettre ce patois. Et puis, avec l'association de Saint-Véran, on écrit aussi quelques livres sous forme de dictionnaire. Et si on cherche, on trouve pas mal de revues qui peuvent nous aider. Oui.
Vous avez des confrères aussi?
On a des contacts avec d'autres associations, la Chapelle de Surieux, Flachère, le Nord-Isère, le Haut-Bréda, le Nord-Grésivaudan aussi, oui, bien sûr. On organise des rencontres. Et cette année, tiens, à ce sujet-là, on participe à un concours d'écriture avec Conflans qui est au-dessus d'Albertville, là, qui organise assez régulièrement ce type de concours d'écriture et qui est rassembleur pour les associations de patrimoine. Peut-être on va faire un podium.
Oui. Bon, à suivre. Ben, merci beaucoup. Pour vous retrouver, comment on peut s'y prendre si quelqu'un souhaiterait se perfectionner, apprendre le patois?
Venez donc par la patouée avec nous autres tous les 10 mars, donc tous les mardis à 18h, à la Grande Aclia, au Grand Séchoir, à Vinay.
Ah, c'est dans la maison du Pays de la Nôtre que cela se passe.
Et voilà, comme par hasard.
Ah, hein. Oui. Au Pays de la Franquetta, comme vous le disiez.
La Franquetta, absolument.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Merci. donc au stand des mots du Gène avec une représentante de l'association. Bonjour, je vous laisse vous présenter.
Bonjour, je m'appelle Brigitte Barré, mon nom de jeune fille c'est Rosan. Mmh. C'est un nom d'ici, de Saint-Marcelin, je suis née à Saint-Marcelin. Maintenant j'habite à Viriville et notre association montre des planches gravées en patois par un vieux monsieur plein d'humour, monsieur de Viriville, un ancien petit paysan des Chambarans. Et voilà, on essaye de partager avec le plus grand nombre le plaisir qu'on a en lisant ces textes qui sont en patois mais qu'on présente toujours avec la traduction, qui sont pleins d'impertinences, souvent sarcastiques, voilà.
Un monsieur original hein, qui a gravé un certain nombre de planches, c'est assez important.
Quasiment, presque 300, entre 300 et 400, il en a donné beaucoup. Nous, l'association, il nous en a légué 250.
Ouais. C'est original ça, quelqu'un comme ça qui confie ses idées, gravures de planches.
Ses souvenirs, c'est tous ses souvenirs en patois, quand il était jeune. Sa mère parlait beaucoup le patois aussi. Et donc, c'est des anecdotes. Des sentences aussi de temps en temps, les réflexions d'un homme aussi sage qui a vécu comme petit paysan, mais ouvert au monde, quoi. Il a été syndicaliste agricole, il a fait 5 mandats comme conseiller municipal. C'est pas un singulier de l'art, c'est quelqu'un vraiment ouvert sur le monde. Il y a aussi beaucoup de réflexions, donc beaucoup d'anecdotes et beaucoup de phrases, vous savez, utilisées par les gens pour s'interpeller entre voisins, entre amis. On se dit des choses des fois un peu dures, mais avec humour, ça passe mieux. Voilà.
Ces planches qui constituent un recueil, finalement, que vous avez numérisé.
Une collection. Oui, mais que vous, qu'on peut retrouver sur notre site. Il suffit de taper les mots du Gène, alors tout attaché. MOTSDUGENE.fr sur internet, et là on a mis toutes les planches là, avec des photos, la traduction bien entendu, des enregistrements de ce monsieur qui est décédé il y a quelques années mais qui a enregistré la lecture en patois de tous les textes si on veut avoir les intonations.
Voilà. Ah oui, on peut avoir donc la voix avec.
Oui.
Ah oui. Donc, c'est une association qui est basée sur les Chambarans.
Viriville, oui, c'est ça, on est de Viriville, voilà.
Bien, merci beaucoup.
Tour d'horizon des stands de ces 4e rencontres des patrimoines au Forum de Saint-Marcelin les 12 et 13 avril 2025 à l'initiative de l'association Patrimoine Isère Aval. Allez,
bonjour. Qu'est-ce que c'est ?
L'huile de noix.
Ah oui, alors on trempe le pain dans l'huile de noix.
On trempe le pain dans l'huile de noix et puis là, déguster.
Ah oui, c'est bon.
Et là, on est à la confrérie de la noix de Grenoble. Son rôle, c'est de promouvoir l'AOP Noix de Grenoble, donc pour l'ensemble de la filière Noix de Grenoble, si vous voulez. Donc on est un outil promotionnel du comité interprofessionnel de la Noix de Grenoble. Voilà.
Et vous avez même votre fête annuelle, hein, faut pas l'oublier.
On va avoir effectivement le 15 juin à Vinet, il y aura la fête de la noix et du Saint-Marcelin à Vinet le 15 juin. Voilà, donc on invite les gens bien entendu à participer puisqu'il y aura certainement pas mal de confréries qui vont participer donc à cette grande fête de la noix de Grenoble et du Saint-Marcelin.
Et sinon, l'année, vous avez des activités régulières de...
Oui, on fait entre 15 et 20 activités animation par an à peu près, qui va donc d'animation dans les salons, genre de salon comme on a aujourd'hui à Saint-Marcelin, ou alors après on a aussi des animations dans les collèges où on essaye de faire goûter aux élèves de l'huile de noix, des noix, pour leur ouvrir le goût, si vous voulez.
La noix, on peut le voir par le volet économique aussi patrimonial. C'est un fil d'histoire, la noix.
Ah oui, il faut savoir que la noix de Grenoble, notamment, a été le premier fruit français à obtenir une AOC en 1938.
Ah oui ?
La noix de Grenoble a obtenu une AOC. Donc c'est vrai qu'il y a eu une histoire de ce fruit-là. Et puis surtout, ce qu'il faut dire au niveau économique, c'est que le sud Grésivaudan, voire toute la vallée du Grésivaudan, la noix représente un maillon économique essentiel pour la vallée.
Est-ce que le sud Grésivaudan est le berceau de la noix ? On pourrait le considérer ainsi ou...
Je ne sais pas si le sud Grésivaudan est le berceau de la noix, mais en tout cas, la noix de Grenoble est surtout née dans la région de Tulin, Saint-Quentin-sur-Isère, Vinet, Notre-Dame-de-Lozier, c'est tous ces secteurs-là où il y a eu ce qu'on appelle les premières noix de dessert. Parce qu'il faut savoir que au 18e siècle, voire au 19e siècle, il y avait de la noix partout en France. Par contre, le noyer était cultivé essentiellement pour faire de l'huile. Et cette huile servait à l'éclairage ou au chauffage.
Ah oui.
Hein, et c'est dans les années 1850, après les années 1850, et pour la zone de Saint-Marcellin-Vinet, c'est surtout l'édification de la voie ferrée, 1862, donc qui relie Grenoble à Valence, qui a permis le développement important du noyer, de la vente de noix de dessert, et ces ventes se faisaient aux USA. Donc on vendait, fin du 19e siècle, on vendait jusqu'à 10 000 tonnes de noix aux États-Unis.
Et ces trois variétés emblématiques, alors, c'est des provenances qui ont convergé vers le sud Grésivaudan, quand on passe à la franquette.
Les trois variétés emblématiques, elles portent, donc qui sont franquette, maillette et parisienne, elles portent le nom de leur obtenteur. Donc la maillette, c'est Monsieur Maillet, de Poliena, qui a mis au point cette variété. La franquette, c'est Monsieur Franquet. Je pense qu'il était de Notre-Dame-de-Lozier. Et puis, il y avait Monsieur Paris, qui a fait la parisienne aussi, qui est aussi de la région de Vinet, si vous voulez. Voilà. Au début de la noix de dessert, donc au début du 20e siècle, on va dire, la maillette était la variété prépondérante dans l'AOC Noix de Grenoble. C'était la plus connue. Et aujourd'hui, la maillette ne représente plus que 1% de la commercialisation en Noix de Grenoble, parce que la maillette est une variété qui a tendance à plus alterner, qui est un peu plus sensible aux maladies. Donc elle a été un petit peu abandonnée par les producteurs. Et aujourd'hui, le marché Noix de Grenoble est représenté à 90% par la franquette.
Donc on est au pays de la franquette, hein, comme on le dit en patois aussi.
À la bonne franquette.
Voilà, à la bonne franquette. Alors en tout cas, c'est aussi l'aspect gastronomique, hein, puisque c'est la thématique du salon. Vous faites découvrir la noix sous différents aspects. Effectivement, je ne connaissais pas de tremper dans l'huile un petit morceau de pain, mais c'est bon.
Donc sur notre stand, là, on vient de fabriquer de l'huile de noix. Donc nous avons cassé les noix avec la tuile sur le genou. À l'ancienne, comme le faisaient nos anciens. Ensuite, nous avons mondé, c'est-à-dire qu'on a séparé les coquilles des cerneaux. Voilà. Quand on a eu nos cerneaux, donc on a passé dans un hachoir, comme un hachoir à viande, on a trituré nos cerneaux, on les a hachés. Quand ils ont été hachés, on les a chauffés dans une casserole, sur une petite plaque électrique. Et quand on a estimé que c'était suffisamment chaud, c'est-à-dire aux alentours de 70 degrés à quelque chose près, on les a passés dans cette presse, voilà, et la presse, donc une presse manuelle, et on sort de l'huile de noix. Voilà. Et un autre point d'attraction qui a beaucoup plu à nos visiteurs, c'était le mélange d'un petit bout de Saint-Marcellin avec un cerneau de noix, c'est merveilleux.
Ah oui, c'est simple et bon.
C'est simple et bon.
Bon, ben, bon stand et bonne dégustation pour la noix de Grenoble.
Merci. Merci.
Au stand de Aplomb, donc, pour parler de patrimoine et puis aussi de choses très structurantes et de formation aussi sur un aspect du bâti qui est particulier. Je suis avec Yannick Bress.
Je suis responsable coordinatrice de la formation sur le patrimoine.
La formation, la restauration et puis toute son évolution, parce que ça fait un certain nombre d'années maintenant que vous êtes dans le domaine, vous commencez à être bien implanté sur le territoire.
Oui, on en est là depuis 16 ans et ça fait 12 ans qu'on fait la formation ouvrier professionnel en restauration du patrimoine, donc qui dure une année et qui forme des gens pour devenir ouvriers et qui puissent travailler à la fois depuis les fondations jusqu'à la couverture zingrie d'un bâtiment construit avant 1900, quoi.
On n'a pas idée, mais c'est quelque chose, la restauration du patrimoine qui s'opère tout le temps en divers lieux.
Oui, exactement. Et nous, on s'occupe vraiment du patrimoine qui n'est pas classé, qui est donc la plus grande partie du bâti finalement. C'est pratiquement la moitié du patrimoine bâti. C'est en fait après les années 50 et avant les années 50. Donc il y a beaucoup, en fait, la moitié des chantiers surexistants, ils sont sur du patrimoine qui est construit en pierre, en terre, en bois. Et donc c'est intéressant de connaître les techniques pour pouvoir intervenir dessus.
Alors des formations qualifiantes, certifiantes que vous organisez tout le long de l'année?
Exactement. Alors du coup, on n'est que 6 en France à faire ça, à faire ce titre, qui est vraiment spécifique, qui vraiment forme des gens polyvalents. Pas du tout des gens qui vont travailler sur des monuments historiques où là, dans ce cas-là, il y a des bureaux d'études, des architectes qui décident des techniques à utiliser. Quand il n'y a pas d'architecte et pas de bureau d'études, eh ben, il faut que l'artisan il soit en mesure de conseiller. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'il y a besoin de cette formation. C'est pour avoir une vision vraiment globale du bâtiment, de comment il tient et de quelles techniques il va falloir employer pour que, assurer sa longévité.
D'accord. Ah oui, donc il y a déjà une notion culturelle qui est forte avant le...
Tout à fait, exactement. Et culturel et historique, c'est-à-dire de savoir un peu où on met les pieds quand on est sur un chantier. Est-ce que c'est un bâtiment qui date de 100 ans ou alors de 500 ans ou de plus encore? Donc s'il date de vraiment plus, il a une valeur culturelle qu'il faut vraiment pas négliger et donc pas faire n'importe quoi.
Alors ce sont des formations longues, courtes que vous proposez?
Alors on propose aussi des formations courtes, mais moi je suis responsable de la formation donc sur une année qui aboutit au titre d'ouvrier en restauration du patrimoine.
Le public aussi visé depuis 16 ans. Maintenant, vous avez une belle idée de l'évolution de ce que ça peut représenter, de celles et ceux qui se présentent pour aborder ce type de formation. Et vous montiez cet effet des abacs d'évolution qui sont assez surprenantes.
Voilà, ben c'est-à-dire que depuis 12 ans, au début, on avait des gens qui venaient vraiment de tous horizons, et y compris des gens qui venaient du bâtiment, mais plutôt du second œuvre, donc des carreleurs, des menuisiers, des électriciens. Et puis, il y a 5 ans, à peu près il y a 5 ans, on s'est mis à voir venir des gens qui ont fait de longues études. Donc au début, c'était des gens qui avaient déjà travaillé dans des domaines variés et qui avaient donc un bon niveau d'études. Et puis petit à petit, ça va être des gens de plus en plus jeunes, et qui ont malgré tout eu des diplômes très élevés, quoi, des ingénieurs en fait, qui sortent de l'école d'ingénieurs ou des architectes qui sortent de l'école d'architecture et qui finalement se retrouvent pas dans le métier qui leur est proposé et qui préfèrent venir apprendre à faire de leurs mains.
Alors il y a aussi la notion du genre dans le patrimoine aussi qui a sensiblement évolué.
Exactement, on a toujours eu un petit peu de femmes, mais depuis aussi quelques années, depuis 3 ans, on a vraiment, déjà nous on a embauché des formatrices. Et petit à petit, ben, ça s'est su. Et du coup, maintenant, on a vraiment une parité de genre dans nos formations, qu'elles soient sur le patrimoine ou sur l'éco-construction ou même sur le réemploi.
Des explications à ces phénomènes de surdiplômés qui viennent à la formation ou plus le modèle féminin qui s'investit?
Alors, je pense que nous, on est une association qui déjà est en parité, c'est-à-dire de salariés. Il y a autant d'hommes que de femmes dans les salariés. Il y a une volonté aussi de pas discriminer les gens qui arrivent à nous. Si c'est des femmes, c'est des femmes. Si c'est des gens, je sais pas, qui viennent de l'autre bout de la planète, ils viennent de l'autre bout de la planète. Nous, notre but, c'est vraiment de prendre toutes les forces vives possibles pour restaurer le patrimoine de manière adaptée. Donc, on essaie de vraiment faire un effort sur ça. Et je pense que, à force de le faire, ça a porté ses fruits. Et donc, on devient connu pour ça. Et il y a des gens qui viennent de toute la France pour venir voir comment ça se passe à Aplomb.
Combien formez-vous de personnes par an?
Alors, sur le patrimoine, on a 12 personnes par an. Mais par contre, après, il y a d'autres formations sur l'éco-construction. Donc, en gros, ça nous fait 12 et 12, 24, 48 personnes par an qu'on forme. Okay. Voilà.
Qui après ensuite rayonne régionalement plus largement.
Oui, c'est ça, exactement.
Après des spécificités aussi, chacun peut avoir des spécialités. Vous faites un tronc commun, puis après les gens s'orientent.
Alors il y a des choses qui sont communes, le travail de la terre par exemple, les enduits terre, ils vont se retrouver dans toutes nos formations à peu près. Mais c'est vrai qu'après il y a une séparation, parce que si on fait des formations sur l'éco-construction, on va parler peut-être plus de l'ossature bois, de l'étanchéité à l'air et être conforme à des réglementations qui sont applicables sur la construction neuve. Alors que dans le patrimoine, on n'a pas ces contraintes réglementaires, elles sont moins complexes. Par contre, on a d'autres contraintes, c'est-à-dire de faire en sorte que, par exemple, les remontées capillaires dans un bâti ancien puissent être gérées de manière à ce qu'il n'y ait pas d'humidité dans le bâtiment. Et ça, c'est très complexe et ça demande vraiment une formation spécifique.
Enfin, Yannick, pour terminer, c'est également dans le sillage de Aplomb, un lieu ressource sur votre secteur Saint-Apollinaire, il me semble, où... qui peut aussi concerner des particuliers pour les matériaux.
Oui, c'est-à-dire que comme on a commencé à faire nos formations sur le patrimoine, on s'est rendu compte que pour bien restaurer le patrimoine, il faut utiliser des matériaux qui sont anciens souvent et qui sont réemployés, que ce soit des pierres, le bois, les briques, les tuiles. C'est assez intéressant d'utiliser du matériel de réemploi. Donc on est parti sur l'idée que peut-être on pourrait être une ressource pour les particuliers ou les petites entreprises en matière de matériaux. Et on a commencé à faire des chantiers de déconstruction sélective avec une initiative qui s'appelle Ecomat 38 et qui effectivement est à Saint-Apollinaire, située à Saint-Apollinaire. Et donc on récolte et on conserve ces matériaux et on essaie de les revendre pas trop cher aux personnes qui sont intéressées. Puis nous, on s'en sert aussi pour les formations.
Voilà, puis c'est une initiative qui résonne aussi avec une loi qui est passée.
Exactement, donc c'est la responsabilité élargie du producteur, c'est-à-dire que pour les chantiers de déconstruction de plus de 1000 m², donc c'est des gros chantiers, et bien toute la déconstruction, elle doit
être bien réglementée.
Réglementée et surtout avoir une
traçabilité.
Avoir une traçabilité sur absolument tout ce qui est déconstruit, on doit savoir où ça va et ne pas l'enterrer, et donc si possible le réemployer, c'est encore mieux. Et donc c'est ce que nous on essaie de défendre, c'est le réemploi, parce que le recyclage, c'est quand même un petit peu un problème parce que ça entraîne le système qui continue à sa perte. Donc l'idée du réemploi, c'est mieux. Voilà.
Oui, ça fait moins d'énergie à dépenser pour optimiser le matériau. Et c'est donc depuis maintenant l'ouverture du magasin Ecomat à Saint-Apollinaire, il y a peut-être trois ans.
Et donc maintenant, il est ouvert le mercredi et le vendredi, mais peut-être que ça va évoluer un petit peu dans les mois à venir, mais en tous les cas, c'est mercredi et vendredi.
D'accord. Et la fréquentation évolue, là, ça se sait?
Eh ben, disons que c'est assez régulier. C'est régulier, ça n'augmente ni ça diminue. Voilà.
Mais ça permet pour celles et ceux qui souhaitent faire un chantier chez eux ou l'entreprise de dégoter des choses à bas prix.
Alors très bas prix, faut pas trop imaginer plus ça, parce qu'en réalité, ça coûte de l'argent de déconstruire et de stocker et de tout ça. C'est pas si évident que ça. Donc c'est pas une question de prix, mais par contre c'est une question de matériaux que vous trouverez pas forcément ailleurs. Et par exemple des briques de réemploi, et ben elles ont un cachet que des briques neuves n'auront pas. Des pierres de réemploi de la même manière, des tuiles, elles vont avoir peut-être aussi une autre apparence. Et le bois de réemploi aussi, ça c'est intéressant aussi, de bois de construction de réemploi. Mais après, ça nécessite aussi un savoir-faire pour le réutiliser, qui est peut-être pas donné à tout le monde.
D'accord. Alors quand on entend déconstruction, ça peut concerner le secteur industriel ou patrimonial ou...
Tout à la fois, effectivement. Ça peut... En fait, actuellement, la réglementation oblige ça, je vous dis, pour des bâtiments qui se démolissent, qui ont plus de 1000 m². Donc c'est des grosses constructions qui peuvent être effectivement industrielles, avec beaucoup de métal, par exemple. Et donc c'est pas tout à fait ce qu'on avait imaginé, mais c'est intéressant quand même.
C'est une loi vertueuse quand même.
Tout à fait, mais elle est en train de, les échéances sont en train de se réduire parce que je pense que l'État essaye de donner un peu plus de temps aux grandes entreprises pour se retourner et changer un peu leur fusil d'épaule sur les matériaux qu'elles emploient. Il y a une négociation aussi entre les milieux économiques et les volontés politiques. Voilà.
Merci beaucoup Yannick Bresse.
Ben de rien.
Fin de ce tour d'horizon du salon des 4e rencontres des patrimoines au Forum de Saint-Marcellin les 12-13 avril 2025, avec comme association fédératrice Patrimoine Isère Aval. La mémoire sonore en Royan-Vercors.